Bonjour à tous. Donc, comme l'a introduit Anne-Claire, nous sommes venus de Paris, mais pas seulement, puisque la société est installée à Paris, mais nous avons aussi une entité à Montpellier. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, on est en pleine forme, prêt à répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, un petit déjeuner dont le thème est savoir se présenter face à un recruteur. Maintenant que vous avez beaucoup d'attentes et beaucoup de questions, on y répondra avec plaisir et le plus précisément possible. N'hésitez pas surtout. Hein. Et en deux mots aussi, on va vous présenter notre cabinet qui s'appelle Olona. Donc nous sommes un cabinet de conseil en management, organisation et ressources humaines. Le cœur de notre métier, donc la formation, le conseil, le coaching individuel et le coaching d'équipe, le recrutement, puisque nous sommes amenés aussi à recruter pour nos clients. On fait des bilans de compétences et l'outplacement, c'est-à-dire que nous accompagnons les gens lorsqu'ils sont licenciés ou des licenciements individuels ou des licenciements collectifs, peu importe. On les accompagne à la demande de leur propre initiative ou de leur société, ex-société en fait. Voilà. Donc nous, le cœur de notre métier, c'est s'occuper des gens, les accompagner, les aider, dans divers domaines, mais sur la communication, le management, le développement, voilà. C'est globalement, pardon, notre métier. Donc, on est une équipe de 8 personnes. On a tous des tâches un peu définies, bien entendu, mais aussi on pratique évidemment la polyvalence. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Julien, qui est le consultant spécialiste du recrutement et qui va vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Julien. N'hésitez pas à intervenir quand bon vous semble. Voilà, je vous souhaite un bon petit déjeuner et puis on va intervenir simultanément avec Julien.
Bonjour à tous. Donc comme Laurence vous a dit, on est un cabinet de conseil en ressources humaines. Pour les personnes qui le savent, c'est un cabinet en de conseil. Vous avez déjà rencontré. Non, est-ce que déjà, avant de commencer cette présentation, il y a des questions ou des attentes particulières, soit par rapport à des expériences que vous avez déjà eues face à des recruteurs ou face à une situation où vous auriez pu être en recrutement? Non? Personne n'a jamais fait de face à face? Est-ce qu'il y a eu des interrogations métaphysiques par rapport à ça? Non?
Si moi j'ai une question pour le recrutement, est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour développer? Enfin, pour
développer. On a beaucoup de demandes.
Oui.
Dans quel sens?
Est-ce que vous avez beaucoup de temps pour faire ce qu'il y a du temps pour recruter des recruteurs?
Ça se passe jamais comme ça. C'est une bonne question. Non, en fait, c'est sur le profil défini. Les niveaux de diplôme, en fait, en général, ça arrive à 2.5, avec des masters, des masters 2. Et la question, c'est comment est-ce que les doctorants, est-ce que tu connais ça dans le sens inverse? Comment est-ce que les doctorants s'insèrent dans le système? Alors, les règles du jeu. On a pris cette image parce qu'il y a quelques règles du jeu à connaître avant de commencer un entretien de recrutement. Peu de gens connaissent, même ceux qui ont déjà participé à vos entretiens. Voilà, donc c'était ça. Évidemment, avant de commencer d'aller voir la personne, toujours avoir un exemplaire de son CV et de sa lettre de motivation. Je rappelle que la lettre de motivation est obligatoire. Je sais, ça peut être fastidieux d'écrire à chaque fois une lettre pour passer un poste. La lettre de motivation, elle ne sert pas à grand chose, puisque vous avez très peu de chances qu'on la lise. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes éliminé. Donc elle est nécessaire, mais pas utile. Pourquoi avoir toujours son CV? Parce que la personne en face de vous veut juste l'avoir oublié. Et donc, il vaut mieux avoir imprimé sur soi son CV. On ne sait jamais. La personne peut vous montrer, peut essayer de vous tester comme ça. Ça va? Alors, pendant l'entretien, ce qu'on a essayé de faire, c'est de définir déjà qu'est-ce qu'un recruteur, avec la différence entre chargé de recherche et chargé de recrutement et les cabinets en général. Alors, par rapport à ta question, ça me fait penser, est-ce que vous savez comment ça se passe, la définition d'un profil, et notamment comment est-ce qu'on diffuse un poste? Non, vous avez vraiment dit. Il y a deux cas de figure. Enfin, en tout cas, le cas de figure qu'on va étudier là, que je voudrais vous montrer là, c'est, alors, on va parler de notre cas, qui est le plus simple. En tant que cabinet de recrutement, on a des clients. Et avec ces clients, ils ont soit un poste, on va dire un poste manquant. Donc ils viennent à nous et nous disent voilà, on voudrait un ingénieur mécanique, par exemple. Donc ensemble, on va définir un certain nombre de choses, dont le profil, l'expérience et voilà ce qui est, et pour la suite ce qui se passe. Alors. L'expérience, je veux qu'il y ait quelqu'un qui ait entre 1, 3, 5, 7, 20 ans d'expérience. Qu'il ait travaillé dans tel secteur. Tel secteur ou tel secteur. Que, donc ça c'est le truc basique, qu'il parle telle langue. Qu'il ait tel niveau en informatique. Parce que ce sont les branches d'aujourd'hui. Et ensuite, en termes de profil, je veux quelqu'un. Alors, les grands mots du moment, c'est adaptable, à potentiel, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Ensuite, notre rôle à nous, c'est de le diffuser sur un certain nombre de sites, sur les job boards, dont les plus connus, comme Cadre Emploi, Region Job et l'APEC. Je ne sais pas si vous connaissez ça. L'APEC étant le plus ancien, puisque c'est l'association pour l'emploi des cadres. Et les recruteurs vont dessus aussi pour les CVT. En gros, il y a 2 millions de CV sur chaque base. Donc, on va diffuser une annonce sur ces sites, par exemple, si c'est pour les études d'ingénieurs, en sachant que le Region Job est spécialisé en fonction de la région, comme on l'a dit, West Job, Sud Job, East Job, Paris Job. Cadre emploi, c'est juste en fonction du niveau du cadre, si vous êtes cadre ou pas. Pour rappel, être cadre, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est d'avoir au minimum un bac plus 5. D'avoir fait un stage. Et la deuxième, c'est au moins 10 ans d'expérience. À tel degré de responsabilité. Et ensuite. Donc, le poste est diffusé sur un certain nombre de sites. Et ensuite, c'est aux gens de postuler. Donc, à bon l'autre. Et donc, la première phase de ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir tous les CV. Et ça va être la phase de sélection. Et la première phase de sélection sur CV, imaginons que pour un poste où on reçoit, 200 CV, ce qui est la moyenne par poste actuellement, on va les lire en moyenne en 8 secondes. Donc 8 secondes, l'idée c'est que votre CV doit être suffisamment clair. Donc un CV ne doit pas être exhaustif. Vous n'allez pas avoir tout marqué dessus. C'est plutôt, faut plutôt le voir comme un outil de marketing, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il donne envie à la personne de vous appeler par la suite. Donc on est toujours sur les 200 CV. Donc après lecture, on en élimine 80%. Bon, on va dire, allez, il en reste 20. À vue de nous. Sur ces 20, potentiellement, on peut lire à ce moment-là la lettre de motivation. Si vous ne l'avez pas, c'est moins bien. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un entretien téléphonique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. À chaque fois, vous pouvez me dire si vous avez vu ça ou si vous avez. Si ça vous dit des trucs. L'entretien téléphonique, en moyenne, dure 15 minutes. Et à la suite, on va dire 20 appels, on va recevoir en entretien 7 personnes. Sur ces 7 personnes, on va. L'entretien dure, on va dire, entre 1 heure et 1 heure et demie. Et de ces 7 personnes, au maximum, on en envoie 4 chez client. Donc, on aura posé un certain nombre de questions qu'on verra par la suite. et vous avez toutes les questions possibles et imaginables. S'il y en a qui ont déjà eu des questions, on peut rien voir. Pourquoi est-ce qu'on parle de mode d'emploi par un recruteur? L'idée qu'un recruteur, c'est quelqu'un qui a fait, en général, soit des études de ressources humaines, soit quelqu'un qui a fait du commercial. Donc, il y a une école de commerce. Et ça va changer la façon dont il va aborder les choses. Si vous voulez, notamment, si c'est quelqu'un qui vient d'un cabinet de commerce, il va vous traiter comme des flux. On parle de flux dans ces cas-là. Le plus connu d'entre eux, pour ça, c'est Michael Page, qui est le plus gros cabinet de recrutement en France. La plupart des gens qui viennent de chez eux sont des commerciaux, en fait. Ensuite, on parle de chargé de recherche ou chargé de recrutement, ce qui est légèrement différent. Pour ceux dans les cabinets, il y a toujours une personne qu'on appelle un chargé de recherche. Le chargé de recherche, il a pour vocation à diffuser des CV sur Internet, sur les job boards, donc sur les sites emploi, et ensuite de faire la présélection, ce que je vous ai dit tout à l'heure, notamment par rapport au CV, par rapport à une grille qu'il a. Imaginez que c'est des gens qui ont 22 ans. Donc, ils ont une grille, il y a marqué anglais courant, je prends. Il y a marqué expérience 1-7 ans, je prends. Il vient de tel secteur, je prends. Il fait juste ça. Ensuite, il va vous appeler. Pareil, regrille. Donc, est-ce que vous êtes libre, etc. ce que vous avez fait. Si ça passe, il va transmettre ces informations à son consultant, qui lui va vous recevoir un entretien. Et donc c'est celui-là, c'est soit le chargé de recrutement. Le chargé de recrutement, l'autre phase, c'est celui qui est dans les entreprises, donc qui n'est pas dans un cabinet de conseil. Et qui fera exactement tout ce processus dont je vous ai parlé, mais il le fera tout seul. Et ensuite, il le donnera soit à sa RH, son DRH, RRH, responsable des ressources humaines ou directeur des ressources humaines, soit à son opérationnel. Son opérationnel, donc c'est la personne qui s'occupe du recrutement pour son équipe, pour son manager, pour le manager. Voilà. Est-ce que ça va s'éclairer sur cette partie-là? Donc c'est deux phases qui sont différentes. Les cabinets. Alors, donc les cabinets de conseil, je vous en ai cité un, qui est le plus gros, qui est le plus connu, qui s'appelle Michael Page, qui donc a une façon de travailler qui est très particulière par rapport aux autres, puisque, ce que je vous ai dit, il parle en termes de flux. Vous avez chez Michael Page notamment le meilleur vendeur, non, on dit pas ça, le meilleur consultant par mois, par trimestre et par année. Et ils ont des primes sur objectifs. Donc si vous vous faites recevoir un jour par Michael Page, il ne faut pas vous étonner que ça ne dure que 20 minutes. Parce que ce qui les intéresse en termes de business model, c'est d'avoir une CV tech très fournie. C'est-à-dire demain j'appelle un client. Et je peux lui dire, voilà, j'ai 6 CV à vous proposer dans les 24 heures. C'est un modèle. Sinon, dans les autres gros cabinets, ceux qui sont connus, il y a Hudson, comme la rivière, qui eux sont plus sur le qualitatif. Donc ce que je vous expliquais, chargé de recherche qui met les CV, qui met l'annonce sur Internet, qui trie les CV et qui vous appelle et qui vous envoie à leur consultant. Bon voilà, ça c'est les deux plus gros. Ensuite, vous en avez plein d'autres. Vous avez Stepstone, qui doit être le troisième. Vous avez Haze, qui est le quatrième. Et après, en fonction, il y en a une multitude de cabinets. La taille moyenne des cabinets, c'est 40 personnes. Donc, Michael Page doit faire 800 en France, Hudson 400, et après, ça se divise à chaque fois presque par deux. Donc, ces gens-là, ils s'attendent à ce que vous soyez, en termes de comportement, prêt à un certain nombre de choses. On va voir. Est-ce que ça va s'éclairer sur cette partie de... La première chose. Vas-y,
je t'en prie. Quelle est la proportion des entreprises qui recrutent par le cabinet et qui recrutent par eux-mêmes? Parce que je pense que la preuve, c'est que tu peux jamais, si on est face à un recruteur d'un cabinet.
Ouais. C'est pour ça qu'on a fait la distinction. Ouais. La proportion, elle est en grande diminution depuis 4 ans, à cause de la crise notamment. Parce que ça coûte très cher hein, de faire appel à un cabinet de recrutement. En gros, il faut imaginer que le cabinet, en moyenne, il prend 20% du salaire annuel brut. C'est ça son tarif. Donc du poste qu'on a défini. Hein, les chargés de recrutement, alors si je peux revenir, les chargés de recrutement, j'allais dire, c'est plus zen comme façon de faire. Ils sont moins durs. Parce que leur objectif, c'est de recruter quelqu'un. C'est pas d'avoir X CV à la fin qu'ils peuvent réutiliser, notamment après. Par contre, c'est souvent des gens dont c'est le premier job. Donc, ils savent pas forcément faire. Et notamment, ils sont liés au process interne de recrutement. Qui souvent passe par l'opérationnel, enfin, par le manager qui recrute. Souvent, c'est des grosses boîtes. Hein. Parce que pour avoir un chargé de recrutement, c'est des grosses boîtes. Ou alors, c'est des gens qui sont chargés de recrutement et chargés de formation. C'est souvent mixé dans ces cas-là. Donc, à côté, ils s'occupent de la formation, donc ils ne font pas que ça. Ce qui me fait penser que les délais de recrutement se sont beaucoup, beaucoup rallongés. Pour des postes à bac plus 5 minimum, et alors bac plus 7, on n'en parle pas, le temps moyen c'est 4 mois. Entre le moment où je vois, l'annonce, où je postule à l'annonce, et le moment où je suis embauché. Et plus les postes montent, plus le temps s'allonge. Pour les postes de cadre intermédiaire, c'est 4 mois. Les postes de pas top management, mais juste un peu au-dessus, c'est 6 mois, et top management, c'est 10 mois. Donc c'est très très long. Ce qui me fait penser que la moyenne, selon les chiffres de la PEC, pour les jeunes diplômés, pour entre le moment où ils sortent de l'école, de la fac, etc., et au moment où ils trouvent leur premier job, c'est 10 mois. Donc il faut être patient. C'est très long de chercher un job. Entre temps.
Et donc juste en proportion.
En proportion, c'est très faible. C'est de 20%.
Tu passes par la cabine.
Mais comme c'est les plus visibles, et comme c'est les plus visibles, c'est les plus actifs. Vous avez plus de chances d'aller voir un cabinet que d'aller voir directement la boîte. Ça va ? Mm-hmm. En tant que. Tu veux faire un mot en tant que.
Non, pour la
boîte. XRH dans les boîtes.
Non, mais je voulais rebondir là parce que. Est-ce que vous avez. Est-ce que l'un d'entre vous avait déjà passé des entretiens, alors pas pour une embauche, puisque vous n'avez pas terminé vos études, mais pour, ne serait-ce que pour un stage, et dans le cadre de ce stage, vous avez certainement eu des entretiens de face à face, c'est une sorte d'entretien de recrutement, parce qu'on est recruté aussi pour un stage, ou voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait ce genre d'exercice, c'est-à-dire un entretien de face à face pour obtenir un stage, et est-ce que vous avez des questions à ce propos qui pourraient rejoindre quand même un entretien de recrutement plus classique. Je vais vous donner le micro.
Non, il ne marche pas celui-ci.
Non, mais je suis dans le fond, pas de soucis. Hein. C'est
tout enregistré. Ouais, ce serait mieux quand même. C'est juste pour l'enregistrement si c'est possible.
Parmi les entretiens que j'ai passés, majoritairement, c'était des entretiens scientifiques. Et je ne crois pas qu'on puisse présenter pareil à un chargé de commerce ou quoi.
Chargé de recrutement,
mais ouais. Qu'il soit commercial ou RH ou tout ça. Enfin, moi, je vais présenter ma thèse pareil qu'un scientifique. Et bizarrement, aux scientifiques, ça passait un peu de questions scientifiques. C'est vrai? Bah, il fallait que j'écrive ma thèse.
Ouais.
Mais ils cherchaient Bosch, je sais pas, et moi je m'attends à être en thèse, donc du coup on va avoir quels sont les modèles qu'on a utilisés, pourquoi on avait un R2 qui était pas normal, enfin bon bref. Et là, enfin c'était.
Ça veut dire.
Non mais voilà, et du coup là c'était très. C'est quoi, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? C'est pas scientifique ça. Oui, bien sûr, je sais faire ça, mais il rentrait pas dans le détail si je savais pas ou bien le faire ou pas. Et donc, c'est la première chose, c'est là comment ça va se dérouler. Est-ce que vous allez nous parler simplement de. Enfin, simplement. Juste de. Ben, un cabinet de recrutement, il va pas s'intéresser à ça. Il va s'intéresser aux qualités personnelles, il va falloir valoriser autre chose. Est-ce que vous présentez les deux types de savoir se présenter? Savoir se présenter à un entretien scientifique et savoir se présenter à un RH. J'ai rencontré un RH aussi qui me posait des questions un peu bizarres et qui me regardait en tout cas.
C'est normal, c'est un RH.
Que faire quand on vous regarde en travers? Et voilà, je ne pas du tout.
Est-ce que tu as un exemple de question? Tu te souviens des questions que tu as posées ou pas?
Les classiques du style vous voyez dans 5 ans. J'ai une amie à qui on m'a demandé si vous étiez un instrument de musique, qu'est-ce que vous ferez? Apparemment, c'est un classique avec Raymond ou un truc comme ça.
Ça s'appelle les personnes symboliques.
Et quoi,
les ouais. Personnes symboliques.
Ouais, c'est des trucs qu'il faut essayer de préparer un petit peu avant, quoi. Et bon, bah voilà, du coup, c'est juste pour dire que c'est pas le même type de présentation qu'on va faire, et voilà. Vous allez apporter ça dans la présentation, quoi.
Alors, pour la question qu'on passe aux scientifiques, en gros, quand tu es dans le processus classique de recrutement, quand tu es RH, tu interviens en premier normalement. Normalement, mais c'est pas forcément vrai tout le temps. Disons classiquement, c'est lui. Et c'est lui qui valide en fait ce qu'on appelle la personnalité, le profil. Donc avec les qualités, etc. J'ai un certain nombre de questions, après si ça colle, on pourra voir. L'idée c'est que tu es censé être le meilleur face à l'opérationnel, face au manager, face au scientifique. L'idée d'être face au, quand tu es face à ton futur responsable, c'est là où tu es censé être le meilleur. Parce que vous parlez la même langue en fait. En gros, tu parles pas le RH, mais tu parles le scientifique. Et c'est d'être le plus naturel possible face à ton manager. Ton manager, en gros, il va juste savoir est-ce que tu es vite opérationnel, enfin, est-ce que tu vas être vite capable de faire un certain nombre de trucs qu'il veut, et voilà. En gros, c'est ça. Et par rapport à l'équipe. Le RH, il va chercher dans la globalité. Est-ce qu'il est adaptable? Est-ce qu'il va bien s'en servir dans l'équipe? Par rapport à l'équipe que j'ai derrière, est-ce que le profil, ça va? Je sais pas, si tu travailles dans une équipe de 10 personnes, ils sont tous timides, etc. et qu'il faut quelqu'un qui mette un peu de push là-dedans, il va plutôt chercher ça. Et ça, par contre, tu peux pas le savoir. Donc, en gros, ils vont chercher deux choses différentes. Il y en a un qui va, ton manager, il va chercher les compétences techniques, le savoir-faire, et moins le savoir-être que ce que va chercher le RH. L'idée, c'est qu'après, normalement, ils font un débriefing dans lequel ils s'échangent les infos et ils disent que ce que tu penses de celui-là, ce que tu penses. De temps en temps, c'est possible qu'il y ait les deux entretiens, enfin, qu'il y ait les deux personnes en même temps. Quand ils ont un manque de temps notamment, ça c'est possible, mais c'est plutôt rare. En tout cas, c'est qu'ils aiment bien estimer les choses les unes après les autres. Donc en gros, c'est ça, quand tu vas, soit le plus naturel possible face au futur manager ou au responsable d'équipe, et moins face au RH. C'est pour ça qu'on montre, il y a un certain nombre de choses qui, de toute façon, il y a des questions qui sont systématiques. Et en gros, ils cherchent ton profil. Et notamment par un certain nombre de questions qu'ils peuvent te poser. C'est ce qu'on verra par la suite. Ça va, c'est clair, ouais. Et tu avais une question aussi.